RFI.
Alors, on dit quoi ?
Hello, c'est Diarra. Je suis ravie de vous retrouver dans notre émission Alors, on dit quoi ? L'arbre à palabres de la jeunesse africaine. Ici, le micro est à nous, nous les jeunes. C'est notre moment et on parle de tout sans tabou. Et pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, eh bien, je suis Diarra Ndiaye. Ma mission, vous donner la parole chaque samedi sur RFI. Je suis une jeune journaliste et je me pose les mêmes questions que vous sur l'avenir, la vie de famille, les angoisses, la carrière, la santé, les galères. Vous l'aurez compris, je m'intéresse à notre quotidien. Et justement, cette semaine, nous sommes allés à la rencontre d'Abdouhader Diop, fondateur d'une application qui utilise la réalité virtuelle pour recréer les conditions d'une expérience scientifique à l'école. Nous entendrons aussi le coup de gueule de Guevani qui en a marre de l'insalubrité à Niamey. Et en parlant de déchets, on va aborder ensemble la question du recyclage au Mali. Et comme d'habitude, on écoutera de la musique avec notamment la chanson Noka de la pétillante burkinabé Nabaloum. Et enfin, décryptage avec Hippolyte d'une fake news qui a circulé sur les réseaux sociaux, sans oublier le conseil de la semaine avec Johan. Le programme est chargé, on démarre tout de suite. Ndiakhen, c'est parti.
Alors on dit quoi avec Diarra Ndiaye?
Plusieurs milliards de tonnes de déchets sont produites chaque année dans le monde. L'accumulation des déchets est un problème majeur, en particulier pour les pays d'Afrique subsaharienne. Bamako, capitale malienne, n'est pas épargnée par l'amoncellement de déchets. Le pays n'a encore aucune décharge finale opérationnelle, ni une unité de recyclage des déchets. Reportage de Maliki, notre correspondant au Mali.
Seule la ville de Bamako produit 30 000 mètres cubes de déchets solides par jour, selon les estimations de la direction nationale de l'assainissement. Au Mali, seulement 25% des déchets sont recyclés. Les 75% restants sont soit brûlés, soit jetés dans la nature, selon le directeur national de l'assainissement, Amadou Camara.
Au regard de la grande problématique et du manque de stratégie cohérente en place, donc c'est vraiment au centre de toutes nos préoccupations actuellement. On est en train d'élaborer toute une politique, parce que la politique ancienne qui était déjà là était relativement dépassée.
En plus de l'absence d'une stratégie nationale de gestion des déchets, le Mali n'a aucune décharge finale, encore moins une unité de recyclage. Pourtant, depuis 2005, le gouvernement malien, en partenariat avec la Banque mondiale, a investi plus de 6 milliards de francs CFA dans la création d'une décharge finale moderne pouvant accueillir tous les déchets de Bamako. Mais le chantier n'avance pas. Amadou Camara, directeur national de l'assainissement.
Actuellement, il n'y a pratiquement qu'une cellule qui est déjà réalisée et qui n'est même pas bien fonctionnelle pour recevoir les déchets dans des conditions tout à fait appropriées. Donc on est là-dessus. Donc il y a un programme qui est prévu pour 2019 pour le rendre opérationnel.
L'assainissement ne serait pas une priorité du gouvernement malien. En témoigne la baisse du budget accordé au secteur cette année. De 2% en 2018, l'assainissement se contente avec 1,7% du budget national en 2019.
Bonjour Matania.
Bonjour.
Alors vous êtes fondatrice de l'ONG nommée Tala Mosika.
C'est ça.
Une ONG congolaise.
Tout à fait.
Je suis également en compagnie de Gundo. Bonjour Gundo.
Bonjour.
Vous êtes représentante de l'association Road Trip.
Exactement.
Une association qui œuvre dans
la plantation d'arbres.
On va approfondir tout cela, mais d'abord peut-être une réaction par rapport au sujet qu'on vient d'entendre. Le recyclage au Mali pose problème. Pourtant, il y a une quantité monstre de déchets qui est collectée par jour. 30 000 mètres cubes de déchets solides par jour et 25% seulement sont recyclés. Est-ce que ce chiffre vous choque, Matania ?
Ça me choque pas tellement. C'est vrai que qu'est-ce qui se passe au Mali, on le retrouve également au Congo. Donc toutes ces données, en quelque sorte, on les a. Après, c'est la raison pour laquelle nous, en tant que ONG, on s'est levé par rapport à ça. On s'est dit qu'il faut faire quelque chose par rapport à ces déchets qui encombrent nos rues africaines et qui créent de nombreuses maladies, de nombreuses pollutions qui peuvent être apparentes. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'est levé par rapport à ça. Donc, je ne suis pas du tout choquée.
Et Gundo, le pays n'a pas de décharge finale opérationnelle. Le pays n'a pas d'unité de recyclage des déchets. Encore une réalité difficile sur le continent ?
Alors, effectivement, c'est une réalité qui est difficile. Je ne suis pas non plus étonnée d'entendre des chiffres pareils, même si ça reste quand même choquant. Toutefois, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est vraiment le manque de volonté politique pour enrayer en fait ces problématiques-là. Et très souvent, aujourd'hui, quand on parle d'écologie, de et même de citoyenneté responsable, on met beaucoup l'accent sur les gestes individuels, alors que ça doit vraiment être une politique collective et même portée par l'institution. Au Mali, moi, c'est pas un pays que je connais parfaitement. Je suis d'origine malienne, mais je n'y vis pas. Par contre, ce que j'ai pu constater, c'est que au niveau des infrastructures, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de système d'égout, par exemple, de ramassage des ordures. Et alors, actuellement, le Mali traverse une crise qui fait qu'on peut se dire que ce n'est pas une priorité. Mais c'est forcément une priorité parce qu'il est question de santé publique.
Ouais. Cette idée d'individualité, vous la soulevez et vous l'avez même concrétisée. Agir pour l'environnement, c'est ce que vous faites dans votre association Roadtrip. Parlez-nous justement de votre action quotidienne autour de la protection de l'environnement.
Alors, Roadtrip, c'est une association donc qui a été créée en 2008. Au départ, il s'agissait de faire des missions de plantation d'arbres de Paris jusque Bamako. Donc, sachant qu'on relie Paris à Bamako par la route. C'est la spécificité de notre...
Par la route, c'est-à-dire en vélo, en covoiturage, à pied.
Alors, au départ, ça s'est fait en voiture, donc plusieurs véhicules, de Paris jusqu'à Bamako. Et depuis 2010, on fait ces voyages-là en minibus. Donc, en 2010, par exemple, nous avions 4 minibus et 28 personnes. Et en fait, on s'est arrêté donc dans des villages au Maroc, en Mauritanie et au Mali, en partenariat avec des associations locales, parce qu'il ne s'agit pas de venir comme des sauveurs occidentaux. Nous, on connaît la vérité, c'est pas vrai du tout. Nous sommes des enfants plutôt du béton, pas vraiment de la terre. Donc c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de mission solidaire, éco-solidaire, et non pas de mission humanitaire. C'est pas vraiment un terme qu'on apprécie. Tout ce savoir-faire autour de la plantation d'arbres appartient véritablement à ces personnes qui sont dans ces villages. Et donc au Maroc, en Mauritanie et au Mali, on s'arrête quelques jours pour planter des arbres, différents types d'arbres évidemment, qui seront par la suite cultivés par les villageois eux-mêmes, par les locaux. La visée de tout ça, c'est que ça puisse permettre à ces personnes-là de vendre par exemple ces fruits pour créer une petite économie, la consommation bien évidemment. Et puis surtout, nous, notre idée, c'était de lutter contre la désertification, parce que les pays que je viens de citer sont menacés par l'avancée du désert. Et donc, le meilleur moyen de stopper cette avancée du désert est un geste quand même assez simple, mais finalement qui fait presque des miracles, planter des arbres.
Un geste voilà. Simple, peut-être, mais quand vous êtes arrivé avec ce message et cette idée de planter des arbres, comment la population a réagi au Maroc, par exemple ?
D'abord, ils étaient assez curieux de voir Français venir jusque dans des villages et non pas s'arrêter dans les grandes villes comme Marrakech, aller s'enterrer dans des hôtels, ce genre de choses. Nous, on va dans des villages où parfois il n'y a pas l'électricité courante ni l'eau courante, donc voilà. Et la première réaction, c'est une surprise, une certaine curiosité, mais partout où on est allé, on a été accueillis à bras ouverts. On échange beaucoup, c'est vraiment essentiel pour nous d'échanger avec les personnes de ces villages. Au Maroc, par exemple, on a un partenaire qui s'appelle l'association Aïcha depuis 2008. Donc chaque année, on organise des missions là-bas. L'an dernier, on y a même envoyé des enfants. Donc c'est le village s'appelle Oumifis, donc dans la province de Galmim, et c'est maintenant presque devenu une famille en fait. Tous les ans, ils ont l'habitude de nous voir arriver, nous Français, au fin fond d'un village marocain.
Et au Mali, ça a été la même démarche? Est-ce qu'il y a eu cette curiosité aussi de la part des villageois?
La même curiosité, oui. La même curiosité et le même enthousiasme à nous apprendre des choses. Parce que ça, c'est vraiment important aussi. Comme je l'ai dit, nous n'arrivons pas en tant que personnes savantes sur la question de la plantation d'arbres. Ils sont leurs propres experts. Et du coup, c'est vraiment bien parce que il y a un échange réciproque sur la question de la plantation d'arbres, etc.
Matania, c'est intéressant cette idée de citoyenneté et d'éco-responsable. Finalement, on peut agir à notre niveau, et vous, vous l'avez matérialisé dans votre association, Tala Musica.
C'est ça, Tala Musica. En fait, c'est une association de droit français qui œuvre en RDC, notamment à Kinshasa. Donc, elle a pour objet la collecte, le tri des déchets plastiques dans la ville. Notamment, on a commencé d'abord par la commune de Limété. C'était plus simple pour nous d'œuvrer là-bas. Ensuite, Tala Musica, en fait, signifie tout simplement, littéralement, Lingala, voir loin, regarder loin. Car en fait, on a tout simplement voulu amener les Congolais à voir au-delà du simple déchet. Car pour nous, d'ailleurs, tout déchet, toute chose usagée peuvent trouver une nouvelle utilisation. Donc c'est ça qu'on a voulu premièrement leur faire comprendre. Mais deuxièmement, on a voulu leur faire comprendre également que derrière les crises politiques, les crises socio-économiques peuvent frapper entre guillemets la RDC, ils peuvent aussi se lever et faire quelque chose pour leur pays. D'où, à travers l'association Tala Musica, on compte également créer de nouveaux emplois, tels que le collecteur des déchets, le transporteur, et également la personne qui sera en charge du tri au sein du centre de tri et de recyclage.
Qu'on compte, donc il y a un centre de tri et de recyclage.
Il n'y a pas encore pour l'instant. C'est qu'on compte le mettre en place à partir de fin 2019, début 2020.
Donc vous collectez des fonds pour tout ça?
On est en train de faire des demandes de subventions. On est en train de faire également, on va lancer dans quelques mois plutôt, un crowdfunding pour qu'on puisse... les fonds, que toute personne puisse participer à ce projet. Donc voilà, par rapport à Tala Musica.
Et qu'est-ce que vous faites de ces déchets collectés?
Alors, premièrement, si je reviens sur les trois axes que nous abordons, on a un premier axe, c'est d'abord la sensibilisation. Donc, nous sensibilisons d'abord les jeunes et les plus âgés. Donc, concernant les jeunes, on les sensibilise à travers des jeux pédagogiques et ludiques, notamment à travers, par exemple, en prenant une bouteille en plastique, en la transformant en boîte à crayons, pour qu'ils puissent déjà se voir à quoi va ressembler une boîte en plastique lorsqu'on va l'utiliser au sein du centre de tri. Ensuite, pour les plus âgés, par contre, eux, c'est plus au niveau des débats. On discute, on réfléchit par rapport aux solutions que nous, on peut apporter et ce que eux...
Jeunes, par la jeunesse.
Par la jeunesse, tout à fait. Est-ce que nous, on peut les apporter, ce qu'ils attendent exactement de notre structure? Et ensuite, la deuxième phase, comme je disais tantôt, c'était en fait les ramassages déjà proprement dit. Parce que c'est bien beau de parler, c'est bien beau de dire, mais aussi il faut montrer. Donc j'ai beaucoup apprécié ce qu'elle a dit, Gundo, que lorsqu'elle a parlé d'éco-citoyenneté, il faut que en fait les jeunes se lèvent et prennent conscience qu'ils ont une responsabilité eux aussi. C'est pour ça on a fait énormément de ce qu'on appelle à Kinshasa les opérations dites de Salongo. En fait, c'est simplement le ramassage des déchets dans les rues. Donc, on a sollicité beaucoup de jeunes, que ce soit auprès des universités, des écoles. On les a sollicités pour qu'ils puissent venir avec nous dans les rues et faire du ramassage des déchets. Ensuite, on a tout simplement entreposé les déchets dans un terrain qui nous avait été alloué tout simplement de manière gracieuse. Et ensuite, concernant le centre de tri, on va le mettre en place vraiment, comme je disais, fin 2019, début 2020, pour la gestion et le traitement.
Vous utilisez justement vous faites appel à l'aide des étudiants et des jeunes de Kinshasa. Est-ce qu'il y a un engouement autour de vos opérations?
Ça nous a tellement, je réponds premièrement oui avec affirmation. Ça nous avait un peu choqué parce qu'au début on avait l'impression que les jeunes étaient un peu en retrait par rapport à tout ce qui est environnement. Avant de créer l'association Tala Musica, on avait l'impression qu'il n'y avait pas cet engouement de la jeunesse. Mais à travers les émissions, lorsqu'on a pu aller en émission de télé à Kinshasa, lorsqu'on a pu parler de notre projet, on a remarqué que les gens étaient beaucoup intéressés parce qu'ils s'étaient dit on veut assainir la ville. Nous, tout ce qui nous importe, c'est de redorer la ville de Kinshasa, c'est de montrer un Kinshasa nouveau. C'est non seulement ça peut apporter le tourisme.
Oui, Gundo parlait aussi de développement économique.
J'appuie tout à fait ses propos.
Et au Mali, par exemple, il y a diverses entreprises de recyclage qui essayent en tout cas d'innover au quotidien. Les détritus, ils sont transformés en ressources valorisées, en tout cas à Bamako. Mmh. Je vous propose donc une immersion dans l'univers de Kumba Diakité. C'est une jeune malienne qui milite en faveur de la protection de l'environnement. Son secret, c'est de recycler des pneus usagés pour en faire quoi? Eh bien, des meubles de décoration.
Bamako, près la tour de l'Afrique. Un atelier de menuiserie pas comme les autres. Sa particularité est sa matière première, les pneus usés. À la tête de la société, une jeune dame, Kumba Diakité. Âgée de 27 ans, elle se bat depuis des mois pour la protection de l'environnement en recyclant les pneus usés.
Il faut savoir que les pneus sont constitués à 80% de matière plastique. Donc les matières plastiques, il faut environ 500 en pneus pour commencer à se dégrader naturellement. Donc là, je pense qu'en recyclant les pneus, on va aider aujourd'hui à réduire la pollution due à ces plastiques-là.
Après ses études supérieures en Tunisie en informatique de gestion, Kouma Diakité est rentrée au pays. Elle obtient un premier contrat avec un opérateur téléphonique, puis décide de lancer Birecycle en mars 2018. Son objectif, débarrasser la capitale malienne des pneus usés en les transformant en objets utilisables comme des fauteuils, des poufs ou encore des tables basses. Dans son atelier en commune 6 du district de Bamako, le travail est minutieux.
Donc ce sont ces pneus-là qu'on récupère avec les galvanisateurs ou même des proches qui nous entourent. Et après, il y a le nettoyage qui est fait par juste le lavage à côté là. Donc après ça, il y a les différentes mesures à faire. La première mesure, c'est l'assise qu'on fait. Et puis après ça, on sort un disque comme ça. Et aussi, il y a le chiffon qu'on coupe aussi en disque. Et on colle à la planche de bois. Et il y a un autre matelas, on doit mettre au-dessus de ça aussi, après le tissu.
Par mois, la jeune entrepreneure peut transformer jusqu'à 50 pneus avec l'aide de ses 7 employés. Mais surtout en fonction des commandes. Ses clients sont des particuliers ou des hôtels, mais pour cet environnementaliste, c'est tout un combat.
On a eu à travailler avec une agence de publicité qui décorait les sièges de Orange Mali pour les fins d'année. Donc on a eu à produire pour 12 sites de Orange Mali. Et aujourd'hui, nous avons deux commandes pour deux personnes là. Ce sont ces pneus qui sont là. On va commencer la production. Sinon, c'est pas comme si c'était chaque semaine on avait des commandes. Ça vient au compte-gouttes. Aujourd'hui, là, ce serait d'avoir des vrais contrats avec des hôtels ou même des entreprises qui ont des politiques RSE. Donc, pour avoir des commandes vraiment remarquables.
Alors que le pays manque totalement d'unités de recyclage, elle ambitionne aussi d'étendre son champ à d'autres déchets plastiques. Mais le chemin reste parsemé d'embûches. Kumba a du mal à se faire connaître du grand public malien. Elle doit aussi se débarrasser de certains préjugés de la société.
Les autres proches, ils disent, mais pourquoi tu ne cherches pas du travail? Pourquoi tu ne cherches pas du travail? Tu as un diplôme. Surtout que moi, j'ai pas eu mon diplôme ici, je l'ai eu en Tunisie. Donc les gens disent, mais pourquoi tu ne cherches pas du travail? Pourquoi tu veux rester à la maison? Et pourquoi tu veux travailler avec tes pneus? Et il y a d'autres même qui me disent, travailler pour soi, le temps, tu peux travailler pour quelqu'un d'autre en même temps développer ton business. Moi, je me dis non, je ne peux pas travailler pour quelqu'un d'autre en même temps gérer ce business-là. Parce que pour développer vraiment son business, on ne peut pas travailler pour quelqu'un d'autre. Déjà, quand toi, tu travailles avec quelqu'un d'autre, tu y mets toute ton énergie. S'il faut en même temps venir travailler sur ton projet, et moi, étant mère, je ne peux pas le faire. J'ai deux enfants à la maison et ça me demande beaucoup d'énergie aussi de les gérer et de les donner de l'amour.
Une partie de la lutte est déjà gagnée au sein de sa propre famille où il fallait convaincre les parents. Bakary Lulenta, le beau-père de la jeune mère de deux enfants, était l'un d'eux. Dans son salon, les affaires sur une table basse et assis sur un pouf tous fabriqués par Birecycle, il se dit surpris par le talent de sa belle-fille.
Je crois que c'est une bonne chose, c'est une initiative à encourager. Si on peut encore l'aider pour qu'elle puisse avancer dans ce métier, c'est encore créer de l'emploi pour d'autres personnes. Il suffit de lui donner un coup de main, de l'encourager pour que l'initiative soit un peu plus grandiose.
Au Mali, seuls 25% des déchets sont recyclés par des entreprises privées. Avec son initiative, Kumba veut faire comprendre à la population malienne que les déchets ne sont pas que des ordures, mais de l'ordure s'ils sont valorisés.
Les déchets ne sont pas des ordures, mais de l'or dur quand ils sont valorisés, nous dit Maliki. On vient de le voir un peu avec le cas de Kumba qui arrive avec ingéniosité à créer un business vert. Gundo, que pensez-vous de Birecycle?
Je trouve que c'est vraiment une super initiative, en plus portée comme ça par une citoyenne lambda. C'est d'autant plus intéressant que ça pose la question de la décroissance, c'est-à-dire que ça incite les personnes à comprendre la nécessité du recyclage. Avec cette question de créer des objets du quotidien avec des anciens pneus. Quand les gens comprendront, et je l'espère, la pertinence en fait de ce projet, j'espère que ça les poussera à avoir des gestes à viser beaucoup plus responsable et du coup ça les poussera aussi à moins partir vers l'achat de nouveaux meubles par exemple, parce que là en l'occurrence il s'agit de transformation de pneus en meubles, et donc ça les poussera à plutôt se tourner vers des objets recyclés, et donc ça, forcément c'est beaucoup plus responsable, ça engendrera beaucoup moins de pollution. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne initiative.
Matania, on vient de voir le reportage donc de Kumba, c'est un portrait très intéressant d'une jeune fille voilà qui se bat en faveur de l'environnement. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous?
Lorsque j'ai écouté ce reportage, ça m'a tout simplement réconfortée dans le choix de faire ce qu'on est en train de faire. Parce qu'elle parle de valorisation de déchets qu'elle transforme tout simplement en meubles, en pouf, en chaises, qu'elle décore, etc. Et c'est vraiment très noble de sa part, parce que généralement avec des pneus usés, on a tendance tout simplement à les brûler pour s'en débarrasser, sans savoir que ça crée des émissions de fumée toxique, tout simplement. Et donc ça pollue encore plus l'air, ça crée également, ça engendre plutôt des problèmes de santé publique. Donc qu'est-ce qu'elle fait? C'est vraiment bien, parce que elle se lève pas pour se débarrasser entre guillemets des déchets. Et même le présentateur, lorsqu'il a dit que les déchets, ce sont de l'or, oui, effectivement, les déchets, ce sont de l'or. Tout ce qu'on a à faire de nos déchets, il faut tout simplement les transformer ou
les recycler.
Dans
le reportage, on entend quand même des témoignages de Kumba qui nous interpellent. Mmh. Pourquoi tu ne cherches pas du travail? Pourquoi tu veux travailler avec des pneus? Ce n'est pas finalement valorisé et compris, en tout cas, de la part de son entourage. Il y a peut-être un travail de mentalité à changer aussi.
Tout à fait. En fait, ce qu'elle vit, nous, on l'a vécu également lors de nos ramassages de déchets à Kinshasa. On a été surprise par les propos de certains, en fait. Lorsqu'ils nous voyaient, ils nous disaient non, laissez tomber, Kinshasa c'est une poubelle, Kinshasa ne sert à rien. Et en fait, c'est pour ça qu'on a vraiment voulu faire ce travail de mentalité, en disant non, Kinshasa c'est pas une poubelle. Si tu veux vraiment que Kinshasa devienne la ville comme, je ne sais pas, comme Paris ou comme Bruxelles ou je ne sais quoi, c'est à toi de te lever, c'est à toi d'éradiquer tous ces déchets entre guillemets. Donc non, j'appuie, vraiment, je comprends un peu ce qu'elle a vécu.
Gundo, on le voit, c'est difficile de convaincre la population locale et de sensibiliser à cette question de protection de l'environnement. C'est pas naturel pour tout le monde.
Effectivement, je pense que ça demande du temps, parce que c'est une éducation à des gestes citoyens, à la question du recyclage. Je pense que ça ne vient pas forcément naturellement à tout le monde, la question du traitement des déchets. J'imagine et j'espère que au fur et à mesure que ce type d'initiatives seront développées, les gens en comprendront l'utilité. En fait, on en revient toujours à l'individu, mais quand ils verront que ça leur sera utile personnellement, j'espère qu'ils se rendront compte de l'impact au niveau collectif et de la nécessité de traiter ces déchets.
Et comment vous avez pris conscience, vous, qu'il fallait agir ?
Road trip, c'est donc des voyages éco-solidaires, c'est une façon de voyager autrement. Au départ, nous, on n'a pas mis l'étiquette écologie. On s'est dit que c'était un geste à faire parce que déjà, ne serait-ce que pour le symbole et pour tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure concernant la désertification, mais au-delà de ça, pourquoi planter des arbres? Eh bien, parce que en fait, c'est vraiment très terre à terre, mais on en a besoin pour respirer. Planter des arbres fruitiers, par exemple, eh bien pour manger également. Et on en revient aussi même à notre vie quotidienne ici à Paris. Lors des derniers épisodes de canicule, on a beaucoup parlé du fait que dans les quartiers où il y avait vraiment très peu d'espace vert, eh bien, c'était beaucoup plus difficile de supporter ces épisodes de chaleur. Et moi, tout de suite, j'ai pensé justement à la nécessité d'avoir de plus en plus d'espaces verts, de planter des arbres, même dans les quartiers populaires qu'on peut trouver en France. Et donc, planter des arbres, c'est pas seulement en Afrique, pour lutter contre le désert ou autre, c'est vraiment, la nécessité vraiment se trouve absolument partout.
Merci beaucoup, les filles. Gundo, eh bien, on va suivre les activités de Road Trip et inviter l'ensemble de nos auditeurs à participer à eux aussi planter des arbres et de vous rejoindre, bien sûr, dans cette aventure.
Absolument, tout le monde est bienvenu.
Matania, vous aussi également, on appelle l'ensemble de nos auditeurs à adhérer. Vous avez certainement une page Facebook. On mettra tout ça, bien entendu, dans le link de notre site web. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage dans vos activités.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonjour, c'est Diara. Je ne suis pas là pour le moment, mais laissez-moi un message.
Bonjour, moi c'est Honoré Otou, je suis togolais, je vis dans la capitale du Togo. Voilà, aujourd'hui, il faut dire que au lieu de protéger l'environnement, on le détruit. Donc là, j'aimerais dire aux citoyens togolais de faire tout pour rendre propre leur ville, parce que c'est très important. Il faut remercier aussi le gouvernement qui a initié une opération qu'on appelle Opération Togo Propre, tous les premiers samedis du mois. qui invite les Togolais à sortir à balai dans leur quartier. Merci et longue vie à l'émission. Alors, on dit quoi?
Alors, on dit quoi? Diaranjai.
Et la semaine prochaine, nous parlerons de l'utilisation d'Internet chez les jeunes Tchadiens. Si vous avez des questions à nous poser, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas, laissez-nous un message sur le répondeur de notre émission au 33 647 740 742 ou contactez-nous sur notre page Facebook. Alors, on dit quoi ?
Pour le guide du routard, la batterie est bancale comme le discours de Dakar. Il fait chaud, je transpire à grosses gouttes de moutzig. Zao les salopiques, les soulards sont des moustiques. Je suis coincé au village, DJ fait tourner le sample, boom bap du vieux sage. Je rappe nonchalamment, j'ai pas besoin de bonheur, regarde l'espace entre mes dents. Je casse des nuques, musique de trans, yes, passe pas de chamanique. J'ai quitté mes bocages, l'Occident luxueux pour mes poisses marécages. Je veux tout laisser derrière, je veux prouver sa terre-mère, le nez dans la poussière. La torpeur est torride, la sueur aride, perle en collier de Cori. Je roule boule en foufou, les mots à ma sauce et ma langue fait du kung-fu. Ici tout est chinois, la route, l'hôpital, le stade, bienvenue chez moi, chez eux. Mon village est global, assieds-toi mon frère, tu veux du thé ou du cobalt? Le rythme est dans le pot, le pilon, le mortier, la berceuse des marmots. Je mets ma boucle en repeat, le village un cypher autour du feu qui crépite. Je t'explique l'esprit de l'ancêtre, un mal à l'âme. Le cybercafé a remplacé l'arbre à palabre. Laisse-moi zoom zoom zoom, je te vendrai tout, appelle-moi Mama Benz. Ce rap du diable, ce gospel du Sahel, cette musique d'ange auréole sous les aisselles.
D'entendre Tropical, la chanson super sympa de Gaël Faye.
Alors on dit quoi ?
Place à présent à l'initiative de la semaine. Chaque samedi, Alors on dit quoi vous présente un projet que vous avez mis en place en Afrique. Ce samedi, direction Dakar. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des jeunes savants qui veulent transformer les smartphones en laboratoire. Lancée par une jeune équipe d'informaticiens africains, l'application Home Labs veut révolutionner la façon dont on fait de la science dans les collèges et les lycées du continent. Leur secret, utiliser la réalité virtuelle pour recréer les conditions d'une expérience scientifique. On en parle avec l'un des fondateurs, Abdourahad Diop. Il est étudiant à l'École supérieure polytechnique de Dakar au Sénégal. Bonjour Abdourahad.
Bonjour Diana.
Alors, Home Labs, c'est une application mobile que vous avez créée avec des camarades et qui permet aux élèves de faire des expériences scientifiques virtuelles. Comment est née cette ingénieuse idée ?
Effectivement, Home Labs permet aux étudiants de faire des expériences grâce à leur smartphone. Cette idée est née d'un manque et quelque chose qu'on voyait tous les jours dans notre environnement, c'est-à-dire des gens en fait qui ont un bac scientifique, mais qui finalement en fait ne connaissent rien à tout ce qui est scientifique, donc physique, chimie et biologie.
Et du coup, comment fonctionne ce laboratoire, cette immersion dans un laboratoire de physique, de chimie et de biologie ?
Il suffit d'avoir juste un téléphone, de télécharger l'application et ensuite de l'intégrer à un casque de réalité virtuelle. Mmh. Il suffit de mettre le casque sur ses yeux. Et là, en fait, on n'a pas une image classique, mais on a un environnement avec de la profondeur de champ. Et dans cet environnement-là, on retrouve le matériel de laboratoire et on peut réaliser des expériences scientifiques. Et ça permet à l'étudiant de pouvoir apprendre par la pratique.
Et les élèves, ils ont donc leur smartphone, éventuellement un casque, et ils peuvent pratiquer. Alors, ils sont guidés. Comment ça se passe un petit peu?
Ça se passe de manière encadrée, en fait. On définit ce qu'on appelle un level design, dans lequel on parle d'un sujet en particulier. Et dans ce level design-là, on permet à l'étudiant, en fait, de faire une sorte de parcours. Dans ce parcours-là, il y aura des explications, il aura des QCM, etc., pour qu'on puisse vérifier s'il a compris. Et on lui permet une interaction avec l'environnement qu'il voit. Et il a un opérateur qui lui explique concrètement. Imaginons un cours sur les états de la matière dans lequel on va voir tous les états d'une matière. On va voir comment passer de l'un à l'autre. Et ensuite, on va vérifier en fait si l'étudiant a bien compris de quoi il s'agit.
Et c'est basé sur quel programme scolaire?
C'est basé sur le programme sénégalais pour l'instant. Dans notre équipe, on a quelqu'un qui est dédié à la pédagogie, qui est chercheur en physique. C'est lui qui définit le programme par rapport au programme sénégalais. Et là, nous, en fait, on fait une transformation du programme exigé au Sénégal en une expérience immersive.
Mais ce que je voulais aussi vous demander, c'est l'application, est-ce qu'elle est payante? Comment elle est disponible?
Alors, nous sommes actuellement en train de travailler avec des partenaires qui seront en gros des sponsors, en fait, de l'application pour des gens. Et c'est basé sur un modèle de paiement mensuel dans lequel on pourrait même aller jusqu'à fournir le smartphone et le casque de réalité virtuelle.
Du coup, ce serait payant pour les élèves ou alors pour les écoles?
On veut vraiment éviter au maximum de faire payer les élèves. C'est très compliqué en Afrique. On veut faire payer les écoles, on veut faire payer les institutions comme des ONG, on veut faire payer aussi l'État qui pourrait être un partenaire intéressant pour nous.
Aujourd'hui, on est en 2019, vous avez déjà été primé à plusieurs reprises pour ce beau projet d'innovation que vous avez mis en place. Aujourd'hui, où en êtes-vous dans le développement de l'application?
On est en phase de test interne, on est en train de modifier beaucoup de choses, on est en train d'améliorer beaucoup de choses et on espère que 2019 sera vraiment une année fructueuse pour nous. D'ailleurs, nous avons décidé de formaliser notre projet en tant qu'entreprise. Nous avons créé notre entreprise en décembre 2018 pour vraiment avoir une structure en fait qui n'a que pour objectif All Labs.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Abdelkader.
Merci beaucoup, Diarra.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Alors, on dit quoi?
Bonjour, je suis Khadija Meiga. Je travaille sur les questions politiques et sécuritaires au Sahel pour des organisations non gouvernementales. Mon regard et ma vision sur l'Afrique sont très positifs car aujourd'hui, malgré tous les défis démographiques, de développement auxquels l'Afrique fait face, et notamment la zone sahélienne où je réside, nous pouvons constater tous les jours toute la résilience dont fait preuve les Africains et notamment les Sahéliens, qui arrivent à faire des choses positives, qui arrivent à ressortir leur plein potentiel malgré tous ces défis et malgré tout le contexte auquel nous faisons face ici. Je pense notamment aux questions sécuritaires, au manque de développement. Un message que j'aurais à destination des jeunes Africains, notamment de la zone sahélienne, ce serait de passer à l'action, de passer plus à l'action et de ne pas avoir peur de s'asseoir autour de la table, d'être audacieux et de faire les choses, tout simplement. Si j'ai un message à donner aux seniors et aux aînés, ce serait indubitablement de passer le relais, de responsabiliser les jeunes, de nous accompagner, parce que nous pourrons faire des choses et penser à notre avenir sans leur expérience. Ce serait fondamentalement le message que j'aurais à donner, c'est passer le relais et accompagnez-nous pour penser notre avenir, penser notre vie commune.
Nos aînés doivent nous faire confiance et nous accompagner pour bâtir notre avenir. Merci Khadija. Et n'hésitez pas, vous aussi, partagez votre vision dans Alors on dit quoi sur RFI. Chaque samedi, envoyez-moi vos messages sur le compte WhatsApp de notre émission. Présentez-vous avec votre nom et prénom. Définissez-vous en trois mots-clés. Adressez ensuite votre message à la jeunesse africaine, puis aux aînés et expliquez-nous votre vision de l'Afrique qui gagne.
Appelle-nous sur WhatsApp au 33 647 740 742.
Et tous les samedis, alors on dit quoi ? Décrypte des infox. On vous propose de vérifier des faits consacrés à l'Afrique qui ont circulé sur Internet en collaboration avec l'école de journalisme EJICOM à Dakar et le site de vérification des fausses nouvelles Africa Check. Je suis justement en compagnie de notre chroniqueur pour en parler. Bonjour Valdez.
Bonjour Diarra.
Alors Valdez, aujourd'hui dans votre chronique, vous revenez sur une fausse information qui a fait beaucoup parler la semaine dernière au Sénégal. Il s'agit d'une infox sur Ousmane Sonko, un des 5 candidats à la prochaine élection présidentielle.
Alors jeudi 10 janvier, plusieurs sites d'information sénégalais ont repris un article publié par Les Échos, un quotidien local. L'article en question révélait qu'Ousmane Sonko, candidat à l'élection présidentielle du 24 février 2019, est cité dans des liaisons dangereuses avec Tullow Oil, une compagnie pétrolière basée en Grande-Bretagne. Le journal Les Échos, citant une journaliste britannique du nom de Michelle Damsen, présentée comme une spécialiste des questions pétrolières, ajoute que la compagnie pétrolière Tullow Oil a ciblé Ousmane Sonko pour l'aider dans sa communication en échange d'une forte somme d'argent. Mais plusieurs faits troublants suscitent des interrogations. L'article de Michelle Damsen, qui a été présenté comme une journaliste d'investigation par les médias sénégalais, a été publié sur le site ghanéen Modern Ghana. Seulement, le texte, lui, n'est pas le résultat d'une enquête, mais plutôt une contribution qui a été publiée dans la rubrique Opinion du site. Je précise, Diarra, que dans cette contribution, on a pu précisément lire qu'Ousmane Sonko a bénéficié de l'appui financier d'une grande compagnie européenne, mais le nom de la compagnie en question n'a pas été cité, tout comme la valeur du soutien financier à M. Sonko n'a pas été indiquée.
Et Valdez, vous dites que les médias sénégalais ont présenté la nommée Michelle Damsen comme une journaliste d'investigation. Est-ce dire qu'elle ne l'est pas ?
En fait, aucune recherche en ligne n'a permis de trouver le moindre article d'enquête publié par une personne du nom de Michelle Damsen. Le seul texte écrit par Michelle Damsen auquel renvoie le moteur de recherche Google, c'est celui portant sur Ousmane Sonko. En outre, toutes nos recherches sur les différents réseaux sociaux ont été infructueuses. Aucune trace de Michelle Damsen sur Twitter, Facebook ou même sur LinkedIn. Mais à Africa Check, nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons envoyé un courriel à la rédaction de Modern Ghana pour entrer en contact avec Michelle Damsen. Le site ghanéen nous a fait savoir qu'il ne pouvait pas nous donner l'adresse e-mail de la concernée, mais qu'il pouvait lui transférer notre message. Par ailleurs, quelques minutes après notre email, Modern Ghana a retiré l'article de Michelle Damsen en expliquant l'avoir fait dans l'attente de preuves de son auteur, tout en précisant que le texte est une opinion d'un individu et non de l'information. Plus tard dans la journée du jeudi 10 janvier 2019, des internautes ont publié sur Facebook une capture d'écran du compte Twitter d'une journaliste d'investigation du nom de Michelle Madsen, suggérant que le nom Damsen est une erreur dans l'écriture du nom Madsen. Et donc, Diarra, que c'est cette Michelle Madsen qui est la véritable auteure de l'article en question. Nous sommes entrés en contact avec cette dernière pour savoir si elle est donc l'auteur de l'article sur Ousmane Sonko publié sur Modern Ghana, ce qu'elle a nié. Le lendemain, le site ghanéen Modern Ghana a envoyé un courrier à l'Africa Check pour indiquer s'être rendu compte que l'auteur de l'article est en fait un imposteur et qu'il s'agit d'un homme, sans donner plus de détails sur son identité. Le site a publié plus tard une note de précision sur sa décision de retirer définitivement l'article.
Qu'en est-il des différents protagonistes de cette affaire, la compagnie Tullow Oil et Ousmane Sonko ?
Jusqu'ici, Ousmane Sonko n'a pas réagi à cette affaire, en tout cas pas lui personnellement, mais son entourage s'est notamment plaint d'un complot. Par contre, lorsque vendredi 11 janvier 2019, un document portant le logo de Tullow Oil a été largement diffusé par des médias et sur les réseaux sociaux comme une preuve du soutien de la compagnie britannique à Ousmane Sonko, Tullow Oil a réagi dans la foulée sur Twitter, indiquant qu'elle n'a effectué aucun paiement à Ousmane Sonko et en expliquant pourquoi les documents partagés sont des faux.
Merci à Valdez pour toutes ces précisions et à la semaine prochaine. On écoute mon coup de cœur musical de cette semaine avec l'artiste Nabaloum. Son titre, Noka, est une chanson d'amour issue de son album Saké. Autodidacte, cette jeune Burkinabé a une voix veloutée, profonde et généreuse en émotion.
Salut, salut. Alors, on dit quoi ? Moi, c'est Nabaloum, artiste chanteuse du Burkina Faso. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la petite histoire de ma chanson Noka. Noka, qui est une chanson que j'ai chantée en langue morée, qui est une langue de chez moi, au Burkina. et c'est juste une histoire d'amour. Malheureusement, aujourd'hui, il y a pas mal d'hommes et de femmes qui ne croient plus vraiment en l'amour parce qu'ils ont été déçus. Et Noka, c'est une chanson où une jeune dame, tout simplement, lance un message à son amoureux. Elle lui dit comme ça que je sais que t'as été déçue avant, je sais que t'as subi des choses, voilà, qui feraient croire à n'importe qui que l'amour n'existe pas. Mais je sais que tu crois en moi, je sais que tu m'aimes, je sais que tu sais que je t'aime. Et je veux que tu laisses une chance à notre amour. Lâche-toi, s'il te plaît. Enlève, voilà, toutes ces barrières là que t'as mis autour de ton cœur et laisse-moi entrer de m'entrer. La beauté de mon cœur, la beauté de mon amour, la grandeur de mon amour.
En début d'émission, la problématique des déchets fait beaucoup réagir. C'est d'ailleurs le coup de gueule de la semaine que Gevani a souhaité nous partager.
Bonjour, moi c'est Gevani, je suis togolais vivant ici à Niamey au Niger. Donc aujourd'hui j'aimerais parler d'une situation qui me pose vraiment problème. Vous voyez derrière moi, vous allez voir jusqu'à 3 bennes à ordures qui sont positionnées par l'autorité pour permettre de stocker les déchets publics. Sûrement pour les convoyer après la décharge publique. Mais vous voyez, aux alentours des bennes à ordures, il y a certaines bennes qui sont toujours vides. Mais il y a plein d'ordures à côté. La conséquence directe est que ici, c'est sale. Vous voyez, tout l'entourage, c'est sale. Et c'est au milieu des habitations. Ça veut dire que ça pose un problème de santé publique. Ça, il faut que les jeunes prennent conscience et changent cela. C'est un problème de changement de mentalité. Et là, j'aimerais vraiment interpeller mes amis, mes jeunes, mes frères, de vraiment se faire un effort pour que, oui, les déchets soient convoyés, soient vraiment versés dans les bennes publiques. C'est très important pour faciliter la tâche à l'autorité, pour qu'eux aussi puissent faire l'autre travail qui est celui de convoyer vers les déchets publics. Tout ça pour rester dans un environnement sain. C'est le but, c'est la base pour une santé saine et c'est la base pour tout développement.
Si vous aussi, vous avez envie d'exposer vos revendications, souffrances ou injustices, partagez avec nous vos convictions en nous envoyant vos coups de gueule, un coup de gueule en vidéo que vous pouvez nous adresser sur notre WhatsApp ou sur notre page Facebook.
Alors, on dit quoi sur RFI ?
Alors on dit quoi ? C'est aussi une émission qui propose d'améliorer notre quotidien. Aujourd'hui, Joanne revient sur les béabas du pitch. Bonjour Joanne.
Bonjour Diara, bonjour tout le monde.
Alors Joanne, aujourd'hui vous nous parlez d'un exercice que tous les entrepreneurs connaissent bien.
Exactement, et cet exercice c'est le pitch. Pitcher un projet, c'est le présenter à un partenaire ou à un investisseur en quelques mots de manière impactante. Votre pitch doit stimuler l'imagination de votre interlocuteur pour qu'il voit en votre projet une réelle opportunité business. Il est possible de pitcher plusieurs choses de plusieurs manières différentes. La méthode la plus célèbre est celle de l'elevator pitch, entendez pitch dans l'ascenseur. Elle repose sur un principe simple. Si vous rencontrez un supérieur hiérarchique dans l'ascenseur, vous devez, en quelques mots de présentation de votre projet, réussir à obtenir un rendez-vous avec lui. L'exercice doit durer 45 secondes, le temps que l'ascenseur arrive au bout de son trajet. C'est un peu comme la bande-annonce d'un film, en fait.
Alors, comment réussir ce pitch ?
Le pitch, c'est avant tout un exercice de communication et de vente. Donc, il faut rester dans cet état d'esprit tout le long. Il faut réussir à vendre du rêve,
tout en étant factuel. Abordez des sujets concrets, votre business model, le chiffre d'affaires que vous attendez ou encore votre stratégie d'acquisition client. N'oubliez pas de parler de vous et de votre équipe, c'est le plus souvent l'information la plus importante aux yeux des investisseurs qui misent plus sur le potentiel d'une équipe que sur une idée. Et surtout, surtout, laissez briller votre passion, elle est communicative. Il faut montrer votre désir de répondre à un besoin ou de régler un problème.
Alors, si je comprends bien, le fond doit être précis, mais la forme a également son importance.
Exactement. Et voici trois conseils essentiels. Primo, captez l'attention et l'intérêt de vos interlocuteurs lors des 10 premières secondes. Il faut être enthousiaste, énergique, original, surprenant. La plupart des pitchs se ressemblent affreusement. Donc pour sortir du lot, soyez inventif et audacieux. Dès le début de votre pitch, faites en sorte que l'auditoire cerne bien l'activité de votre entreprise. Quel problème elle résout ? Et à qui elle s'adresse. Deuxièmement, n'oubliez pas la gestuelle. Votre aura, la façon dont vous entrez dans la pièce, votre expression faciale, comment vous vous positionnez, votre comportement non verbal transmettra lui aussi un message à votre auditoire. Entraînez-vous devant la glace ou filmez-vous afin de corriger les défauts. Soyez serein. Prenez le temps de respirer et ne parlez pas trop vite. Tertio, ne vous lancez surtout pas dans l'exercice du pitch avec l'envie de tout dire. Vous n'aurez pas le temps et vous risquerez de perdre votre auditoire en allant dans tous les sens. Appuyez-vous sur une idée forte qui deviendra votre message principal.
Alors, tout ça, c'est très intéressant. Mais à quoi ressemble concrètement un pitch, Johanne ?
Imaginons que j'ai une entreprise de comparateurs de serruriers 24 heures sur 24. Je commencerai comme cela. J'ai vécu une expérience traumatisante. Un dimanche soir, je sors mes poubelles et par inattention, je claque la porte en laissant mes clés à l'intérieur. Là, en racontant cette histoire simple, mon interlocuteur peut se projeter très rapidement car il a peut-être déjà vécu cette situation. Il voudra savoir ce qui se passe ensuite. Avec mon téléphone, impossible de trouver un site fiable. Le seul serrurier que j'ai pu joindre a mis 4 heures pour arriver et m'a facturé 500 000 francs CFA. L'histoire continue et l'interlocuteur attend donc la chute. Pour ne plus revivre cette expérience, j'ai créé un comparateur de prix de serrurier 24 heures sur 24 certifié par la plateforme avec une géolocalisation des professionnels. La solution apparaît ici finalement comme une évidence. Notre objectif est d'être la référence en serrurerie au Mali dans un premier temps. Le pitch se termine par la formulation claire de l'ambition de votre entreprise. Avec un timing si court, il est inutile d'entrer dans les détails. Le but du pitch est de décrocher un rendez-vous au cours duquel vous approfondirez le sujet plus tard.
Merci beaucoup pour tous ces conseils, Johanne.
Merci Diarra et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Alors on dit quoi ? C'est fini pour aujourd'hui. D'ici samedi prochain, vous pouvez nous contacter. Ici, c'est une émission participative. Alors on attend vos réactions, vos suggestions et vos commentaires. Partagez et likez notre page Facebook. Suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Réécoutez l'émission sur le site de RFI, sur notre SoundCloud ou même sur Google Podcast. Merci à toute l'équipe de l'émission, Beverly, Mariam, Dibril et Guillaume. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. On parlera de l'utilisation d'Internet chez les jeunes tchadiens. On se retrouve même heure, même fréquence sur RFI. Salut, Rangongol, à bientôt.
Alors on dit quoi sur RFI ?